VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakis en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. Ravi de vous retrouver pour vous présenter cette deuxième édition de la soirée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, vendredi, c'est plutôt lundi, 13 mars 2017. Voici d'abord le sommaire. L'ancien premier ministre nigérien Amadou condamné à un an ferme dans l'affaire du trafic de bébés à Niamey. Nouvelle attaque en Somalie signée les Chebab, au moins 13 morts selon le dernier bilan. Au Nigeria, le président Buhari a repris ses fonctions après près de deux mois d'incapacité de gouverner. Débat au Bénin sur la révision constitutionnelle.
Un chef d'État ne peut tant qu'imposer, en complicité avec la majorité gouvernante, sa vision à l'ensemble du pays. Le débat s'impose donc et on doit le faire.
Bob Badiou, consultant en sociologie. La Syrie se rappelle des 6 ans d'une crise sans précédent qui a déjà fait environ 465 000 morts. Et à suivre après le journal L'économie et les sports. Je vous le disais dans les titres, au Niger, un ancien premier ministre Amadou condamné. Il a écopé un an de prison ferme. Une trentaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Les précisions de Abdourazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Les trois juges de la cour d'appel ont requalifié les faits reprochés à Hama Amadou. Il a ainsi été condamné à un an de prison ferme pour recel d'enfants et non-supposition de bébé. Pour un de ses avocats, c'est une parodie de justice. Maître Moussi Boubacar.
Nous sommes retirés ce matin parce que nous étions convaincus qu'ils allaient rentrer dans une logique de condamnation. C'est pour cela qu'il est venu. La bonne preuve, c'est que vous avez vu la camionnette qui était là, garée, stationnée pour prendre les gens. Si les gens, s'il n'y avait pas une décision qui était déjà prise à l'avance, comment se fait-il? Comment pouvait-on savoir que ces gens-là seraient arrêtés?
La cour n'a cependant pas émis de mandat dépôt pour Hama Amadou qui se trouve en France et qui avait déjà passé 4 mois enfermé dans le cadre de cette affaire. Les nombreux militants de son parti politique qui étaient à la cour d'appel de Niamey ont scandé des slogans comme « Abat la justice ». Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Mogadiscio, la capitale somalienne, frappée aujourd'hui par un attentat terroriste sur le long d'une artère qui mène au palais présidentiel. Au moins 13 personnes sont mortes dans l'explosion. Les secours sur place ont enregistré une quinzaine de blessés. Le groupe islamiste somalien Al-Shabaab a revendiqué cette attaque à la voiture piégée. Jacques Aristide.
L'attentat a été perpétré dans la rue très fréquentée de Makka al-Mukarram, précisément devant l'hôtel Weiliyeh, qui compte les politiciens parmi ses habitués. Les autorités préviennent que le bilan pourrait s'alourdir. Les Chebab ont donc confirmé d'être derrière cette nouvelle attaque dans la capitale somalienne. Un porte-parole des insurgés indiquant que le groupe avait visé d'anciens officiers de l'armée et des renseignements, de même que d'anciens députés. Quelques heures plus tôt, le chauffeur d'un minibus avait tenté de forcer un barrage de sécurité à Mogadiscio. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur le véhicule qui a explosé. Le conducteur du minibus, qui était membre des Chebab, d'après la police, a été tué. Le nouveau Premier ministre Hassan Ali Kaïré a condamné les deux attentats. « Je promets que nous nous opposerons aux éléments assoiffés de sang avec une main de fer », dit-il. Le groupe djihadiste somalien affilié à Al-Qaïda a perdu ces dernières années la plus grande partie des territoires qu'il contrôlait, mais continue à mener des attaques meurtrières dans la capitale et dans d'autres régions tenues par le gouvernement fédéral.
Jacques Aristide, au Mali, deux soldats et deux civils ont trouvé la mort aujourd'hui dans le nord du pays, près du Niger. Une source sécuritaire citée par l'AFP attribue ce crime à des djihadistes présumés au cours d'une attaque. L'armée a déployé des renforts vers la zone de l'attaque et a demandé aux habitants de rentrer pour éviter des morts de civils en cas de nouveaux affrontements. L'unité attaquée assurait la protection des forains dans la zone. RDC, deux experts onusiens ont été kidnappés dans la province du Kasaï central. Ils ont par la suite été conduits dans la forêt par des éléments inconnus. 4 Congolais, dont 3 chauffeurs de taxi-moto et un interprète, font également partie des personnes disparues. Le président nigérien Muhammadu Buhari a repris ses fonctions aujourd'hui. Il est rentré de sa visite médicale la semaine dernière. Son vice-président gouvernait le pays pendant que M. Buhari séjournait à Londres. Son absence au pays a duré près de 2 mois. Abdourahman Dia.
C'est le porte-parole du président Femi Adesina qui a annoncé la reprise de ses fonctions qu'il avait confiées au vice-président Yemi Osinbajo. Son séjour prolongé à Londres et les photos publiées à son retour au pays ont accentué les spéculations sur son état de santé. De nombreuses rumeurs ont circulé sur son sort, le disant même mort ou très gravement malade. Le président Buhari est apparu très amaigri et fragile à sa descente d'avion vendredi. Il a lui-même reconnu qu'il ne s'était jamais senti aussi malade, s'empressant d'ajouter qu'il se sentait beaucoup mieux. Selon son porte-parole, le vice-président devrait faire le point avec lui ce lundi. Le président nigérian, âgé de 74 ans, a aussi déclaré qu'il pourrait avoir besoin d'un suivi médical dans les prochaines semaines, ouvrant la possibilité d'un autre voyage médical en Angleterre. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et qui a perdu l'an dernier sa place de première puissance économique, fait face à une grave récession. La presse, des syndicats et des hommes politiques ont appelé ce lundi le gouvernement de Buhari à mettre l'accent sur la relance de l'économie. La chute du prix du pétrole et la guerre contre le groupe Boko Haram sont cités comme principales causes des difficultés économiques du Nigeria.
Toujours au Nigeria, des humanitaires ont alerté sur de pénuries d'eau chronique dans le nord-est du pays. Ce problème affecte des dizaines de milliers de personnes. Elles doivent se tourner vers des sources d'eau non potable et s'exposent aux maladies comme le choléra ou les diarrhées. Cette population qui a fui les combats entre Boko Haram et l'armée connaît une situation alimentaire désastreuse et une sécurité volatile. L'ONU a affirmé que 7,1 millions de personnes sont en grave insécurité alimentaire sur les pourtours du lac Tchad. Certaines zones sont touchées par la famine. Retour sur l'enquête d'un accident d'un avion dans la périphérie de Lagos qui avait emporté 159 passagers en juin 2012. La commission d'enquête a révélé que sa chute est due aux pannes des moteurs aggravées par les erreurs de l'équipage. Il s'agit de l'un des pires accidents aéronautiques au Nigeria. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont convenu la création d'une plateforme de dialogue pour contenir les tensions xénophobes. Des attaques anti-immigrés ont récemment agité plusieurs quartiers de Pretoria à Johannesburg. Le mois dernier, le gouvernement nigérien avait publiquement exprimé son inquiétude après cette vague d'attaques. La justice égyptienne a accordé à l'ex-président Hosni Moubarak une remise en liberté. La Cour de cassation l'avait acquitté depuis début mars pour la mort de manifestants en 2011 pendant la révolte qui a provoqué sa chute. Toutefois, M. Moubarak n'est pas autorisé à quitter le pays. Selon son avocat, il devrait regagner sa résidence dès que l'hôpital militaire qui le soigne le lui autorise. En Guinée, des ONG de défense des droits de l'homme se sont réjouis de l'extradition hier soir à Conakry du militaire guinéen Bakar Sidiki Diakité, connu sous le sobriquet de Toumba Diakité. Il était recherché pour le massacre d'opposants en 2009 dans un stade de la capitale. Ces derniers protestaient contre la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara. Exilé au Burkina Faso, les magistrats guinéens l'ont inculpé en juillet 2015 pour son implication présumée dans le massacre. L'ONU avait recensé au moins 157 personnes tuées et 109 femmes violées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre en Syrie a commencé il y a 6 ans. Le bilan est des plus tragiques et dévastateurs. Selon les nouveaux chiffres publiés aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette guerre a fait environ 465 000 morts et disparus depuis son déclenchement en mars 2011. Michel Joseph.
Cette ONG, basée à Londres et proche de l'opposition syrienne, utilise un réseau de contacts en Syrie pour dresser un bilan quotidien de la guerre. Elle affirme ainsi être en mesure de confirmer la mort de 321 000 personnes et la disparition de 145 000 autres. L'OSDH d'ajouter que parmi les morts figurent 96 000 civils, dont la grosse majorité tués par les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés russes, iraniens et libanais. Un nombre qui inclut les morts dans les frappes aériennes et sous la torture en prison. Les bombardements des rebelles ont tué plus de 7000 civils, les djihadistes du groupe État islamique 3700 et les frappes aériennes de la coalition internationale menée par les États-Unis contre cette organisation terroriste 920. La Turquie, qui soutient les rebelles dans le nord de la Syrie, a tué plus de 500 civils, d'après l'OSDH. De son côté, l'UNICEF affirme dans un rapport que 2016 a été la pire année pour les enfants en Syrie. Au moins 652 petits Syriens ont été tués l'an dernier, ce qui en fait l'année la plus meurtrière à ce chapitre depuis le début de la guerre civile.
Toujours en Syrie, les rebelles refusent de prendre part à un nouveau round de pourparlers avec le régime prévu à Astana demain et mercredi. En Irak, l'armée accuse les djihadistes dans leur position à Mossoul, la deuxième ville du pays. La reprise de Mossoul Ouest permettra à Bagdad d'asseoir son contrôle sur la totalité de la ville septentrionale et d'infliger son pire revers au groupe djihadiste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à l'actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco signée Claire Morin-Gibourg.
À Abidjan, les commerçantes du marché Gouro d'Adjamé ont manifesté ce lundi pour protester contre la destruction de leurs magasins par les autorités. Depuis décembre dernier, des bulldozers du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable démolissent, étalent et autres magasins après un préavis de 48 heures. Selon Sila Tata, porte-parole des commerçantes interrogées par APA News, certaines femmes vendent sur ce marché depuis plus de 30 ans. Au Togo, des milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues de la capitale Lomé pour protester contre les hausses du prix du carburant. Le 27 février, le gouvernement togolais a augmenté d'environ 10% les prix de l'essence, la deuxième hausse en l'espace d'un mois, faisant passer le litre de super de 476 à 524 francs CFA et celui du gazole de 478 à 526 francs CFA. Le gouvernement a justifié la hausse des prix à la pompe par l'augmentation du prix du baril sur le marché international. Les startups africaines ont levé plus de 360 millions de dollars en 2016. Selon une étude du fonds d'investissement Venture Partners, les sommes investies dans les entreprises des nouvelles technologies en Afrique ont bondi de 30% l'an dernier, passant en un an de 276 à près de 367 millions de dollars. Même élan dans la création d'entreprises, on est passé de 55 startups lancées en 2015 à 77 l'année suivante.
Sans transition, nous passons au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football en Afrique, le Malawi jette la page pour la CAN 2019.
Le pays ne participera pas aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, faute de moyens financiers suffisants. En effet, la fédération de ce petit pays d'Afrique australe explique que pour les mêmes raisons, le Malawi ne disputera pas non plus les éliminatoires du CHAN 2018, cette compétition réservée aux joueurs locaux. Le gouvernement est le seul pourvoyeur des fonds de la fédération du Malawi depuis le retrait pour cause de mauvaise gestion de ses derniers partenaires privés locaux. Les Flammes du Malawi sont sans sélectionneur depuis la fin de l'année dernière et le licenciement de leur entraîneur burundais Ramadan Sanzouwemo.
Et Nico, qu'en est-il de huitième de finale, le retour de la Ligue des Champions demain ?
Victorieuse 2-1 à l'aller, la Juventus Turin est très bien placée pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions au moment de recevoir demain Porto. Dans l'autre rencontre, Leicester reçoit Séville. Après s'être incliné 2-1 à l'aller, les Andalous disposent d'un léger avantage, mais le but encaissé à domicile crée un véritable suspense.
Et l'Atlético Madrid casse sa tirelire pour son nouveau stade, Nico.
Le club et la mairie de la capitale espagnole sont parvenus à un accord pour l'achat du stade de la Peñata par le club rouge et blanc pour un montant de 30 millions d'euros. Le stade sera officiellement utilisé à partir de la saison prochaine sous le nom de Wanda Metropolitano, d'après le nom du conglomérat chinois Wanda qui possède une partie du club.
La Russie a encore beaucoup à faire en matière de dopage.
Et oui, la RUSADA, l'agence antidopage russe, suspendue depuis 2015, a encore beaucoup à faire pour que sa suspension soit levée, a assuré le président de l'agence mondiale antidopage, Craig Reedy, qui a mis en lumière un dopage d'État en Russie. Même si des progrès ont été accomplis, la RUSADA doit démontrer que le processus engagé est autonome et indépendant de toute ingérence extérieure, a ajouté M. Reedy.
Enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Festival de James Harden avec Houston contre le champion en titre sortant Cleveland. Victoire 117 à 112. Les Bulls de Chicago ont concédé une nouvelle défaite 80 à 100 face aux Boston Celtics. Et puis les Knicks vont encore plus mal. Ils se sont inclinés face à Brooklyn 112 à 120 alors que Brooklyn est la pire équipe de ce championnat. Et Brooklyn ne s'était plus imposé à domicile depuis le 26 décembre.
Merci Nicolas. De retour avec vous, Eric Manilakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique, pour aborder les dossiers du jour. Première destination, la Côte d'Ivoire. Commémoration aujourd'hui du premier anniversaire de l'attaque du 13 mars 2016 contre la ville de Grand Bassam. Une attaque perpétrée par des terroristes qui avaient pris pour cible des hôtels de cette cité balnéaire. Officiellement, on a dénombré 19 morts et 33 blessés. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, a assisté à ces cérémonies.
C'est sur les lieux mêmes du drame, à quelques encablures de la plage et juste en face de l'Étoile du Sud, l'un des hôtels pris pour cible par les terroristes, que s'est déroulé l'hommage de la Côte d'Ivoire aux victimes du 13 mars 2016. Il est 12h45 quand le vice-président Daniel Kablan-Duncan, accompagné du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, arrive sur la place de la cérémonie. Dans la foulée, Daniel Kablan-Duncan dépose juste non loin de la mer une gerbe de fleurs en hommage aux 19 morts de mars 2016. Pas d'allocution à l'endroit de l'assistance, juste quelques mots aux journalistes. Le vice-président salue la résistance du peuple ivoirien.
Je suis heureux de constater qu'un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se trouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent.
Le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, se réjouit quant à lui de la bonne coopération entre les services de renseignement des pays de la sous-région. Cela, dit-il, a permis de mettre le grappin sur 38 personnes liées à cette attaque.
Il faut noter une très très grande collaboration entre tous les services de police, les services des forces de renseignement et de sécurité de tous les pays concernés, qui a donné des résultats. Aujourd'hui, grâce aux éléments d'enquête précis de l'attentat de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam.
Les populations de Grand Bassam souhaitent pour leur part ne plus revivre ce genre d'attaque.
Et nous avons été très tristes pendant l'événement. Aujourd'hui, nous faisons ce moment-là pour nous souvenir des personnes qui sont tombées. Et nous nous souvenons toujours, nous allons nous souvenir toujours de ce moment-là.
Nous sommes heureux que nos morts soient honorés. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire, plus jamais ça à Bassam et plus jamais ça dans le monde entier.
Tous les services publics, les écoles, les commerces, le grand marché et les banques sont restés fermés le temps de cette cérémonie d'hommage. Georges Ibrahim Tunkara, Grand Bassam, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Bénin, débat autour de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Si beaucoup sont unanimes sur la manière de procéder, ce sont des stratégies mises en œuvre pour faire passer certains points clés comme le mandat unique qui dérange. Pour beaucoup, si l'actuel président a pris sur lui la responsabilité de faire un seul mandat, il ne doit l'imposer à ses successeurs. Nous revenons sur ces questions avec Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Faut-il réviser ou pas la loi fondamentale du Bénin? Le débat a dépassé cette étape et se retrouve aujourd'hui à remettre en cause certaines subtilités contenues dans les propositions faites par la commission présidée par le ministre de la Justice et qui avait travaillé à proposer les nouvelles modifications qui pourraient figurer dans la Constitution. Certaines personnes avaient dit, disent Touro, que le gouvernement serait en train de tout faire pour contourner une consultation référendaire. Elles voient d'un mauvais œil la possibilité que le projet de révision de la loi fondamentale du Bénin atterrisse sur la table des députés sans passer par le filtre d'un débat public. En clair, beaucoup craignent que les députés pour la majorité acquis à la cause de Patrice Talon aident ce dernier à contourner les contraintes légales d'un recours au référendum. Pour Bob Batio, consultant sociologue, la révision de la Constitution ne saurait passer comme une lettre à la poste sans un quelconque débat.
Pour une révision qui se veut juste et objective, il faut la nécessité pour l'élite populaire et les forces vives, à défaut de l'ensemble de la population, de s'en imprégner et d'en discuter afin de retenir les amendements substantiels. Un chef d'État ne peut donc imposer, en complicité avec la majorité gouvernante, sa vision à l'ensemble du pays. Le débat s'impose donc et on doit le faire.
Pour Epiphane Dalokono, au-delà de la révision de la loi fondamentale, il faut penser à inculquer aux Béninois le respect des tests.
C'est dans l'application de nos tests que nous pourrions donc analyser si oui ou non nous avions retenu un bon test. Si oui ou non les populations pour lesquelles nous avions retenu ce test-là, si ces populations se sentent épanouies, se sentent développées, c'est dans ces conditions-là que moi je pense que la révision d'un test comme la Constitution serait en fait une bonne œuvre.
L'un des points qui dérange certains dans le projet de révision de la loi fondamentale, c'est le mandat unique. Pour l'hôte Rouenou du Parti des valeurs républicaines, les Béninois doivent manifester pour bouter hors de ce projet, le mandat unique perçu comme le bouclier qui permettra au chef d'État de gouverner sans foi ni état d'âme.
Le mandat unique est à rejeter, à balayer hors de la République. La seule occasion, n'est-ce pas, pour les citoyens qui constituent des électeurs pour se venger, c'est le prochain mandat d'un chef d'État en exercice. Dès lors qu'on parle de mandat unique, le peuple n'a plus son pouvoir réel à exercer vis-à-vis d'un élu. Il faut laisser le peuple exercer son pouvoir réel.
Mais le ministre de la Justice persistait s'il ne s'agira pas de remettre en cause tout ce qui existait, mais de rendre plus forte et républicaine certaines dispositions pour un développement harmonieux du Bénin. Joseph Diogbenou.
Nous ne sommes pas dans la réécriture de la Constitution. Nous ne sommes pas dans la fondation d'une nouvelle République. Nous ne sommes pas dans la remise en cause générale. Et donc, nous n'avons pas besoin de considérer les états généraux de la République encore.
La Constitution, si elle est révisée, elle pourrait contenir les réformes telles que la création d'une Cour des comptes, le rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions, la réforme du système partisan et bien sûr la réforme du mandat unique, objet de toutes les récriminations actuellement. Une grande marche est d'ailleurs prévue pour le mercredi prochain à Porto-Novo, la capitale, pour dire non, selon les organisateurs, à une révision taillée sur mesure de la loi fondamentale. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur la crise burundaise jeudi. L'ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies avait réagi sur les ondes de VOA Afrique, disant que le rapport de Jamal Ben Omar, conseiller spécial du secrétaire général, alertant sur la situation sécuritaire et humanitaire, était une manipulation de la part des ONG. Nathalie Barge a joint Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles burundaises pour la paix et la sécurité, qui n'a pas pu s'exprimer devant le Conseil de sécurité comme prévu suite à un refus de la Russie.
J'avais été invité officiellement par la mission britannique auprès des Nations Unies et j'ai été informé la veille que finalement la mission russe avait exercé son droit de veto et qu'ils avaient refusé que je m'exprime devant le Conseil de sécurité. Loin de m'arrêter, hein, je suis partie à New York et heureusement, plutôt que de faire une présentation de 10 minutes maximum devant le Conseil de sécurité, La mission britannique a pu faire un enregistrement par vidéo de ma présentation qu'ils ont fait circuler à tous les membres du Conseil de sécurité. Et par après, j'ai eu l'opportunité d'échanger plus longuement avec des représentants et des experts. J'ai eu un entretien avec eux qui a duré d'ailleurs pas mal de temps.
Que pensez-vous de la réaction de l'ambassadeur du Burundi qui a donc déclaré que ce rapport de l'ONU, de M. Ben Omar notamment, était monté de toutes pièces?
Rien de surprenant. Ce qu'il a dit est une émanation du récit actuel du gouvernement burundais, du régime de Bujumbura, qui, depuis le début, a toujours réfuté, a toujours refusé tout rapport, toute opinion contraire à ce qu'il dit. Ce qu'il dit est, à mon avis, prévisible. Donc, on ne devrait même pas s'arrêter à ses dires. Plutôt, je pense qu'en ce moment, on devrait, la communauté internationale en particulier, se pencher sur comment amener le régime de Bujumbura à la table de négociation. Parce que, après tous ces rapports, y compris le rapport du secrétaire général Antonio Guterres, sont des signaux d'alarme.
Quel a été le retour des membres du Conseil de sécurité? Ou autrement dit, est-ce que vous pensez que l'on puisse éventuellement s'attendre à des sanctions de la part de l'ONU?
Ils en parlent, on en parle, on le leur a fait savoir. Nous avons présenté des mesures concrètes. Nous avons fait des recommandations très claires au niveau des sanctions. Nous avons d'ailleurs utilisé l'exemple du premier processus d'Arusha de 2000. Nous avons parlé d'un embargo, nous avons parlé de sanctions ciblées, nous avons parlé de plusieurs actions calibrées au niveau de la région. Nous avons parlé du besoin de la région, justement, au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, de parler d'une seule voix. Maintenant, est-ce qu'ils vont réagir rapidement? C'est notre souhait. Mais de toute façon, ça ne nous arrêtera pas. Nous allons continuer à le leur dire, nous allons continuer à secouer le prunier, comme on dit, et puis on verra.
Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Regard sur le pays arc-en-ciel avant de nous quitter, alors que ce pays, c'est l'Afrique du Sud, vient de connaître une nouvelle flambée de violences xénophobes. Un rapport de l'Institut sud-africain des relations raciales souligne plutôt la contribution positive des immigrants à l'économie sud-africaine. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Les Sud-Africains peuvent apprendre beaucoup de choses des autres Africains, notamment l'entrepreneuriat et la création d'emplois, souligne le rapport. Intitulé « Les immigrants d'Afrique du Sud, bâtir une nouvelle économie », le document révèle que 80% des échoppes de quartier sont tenues par des immigrants originaires, en majorité de la Somalie, de l'Éthiopie, du Nigeria, du Bangladesh et du Pakistan. Ceux-ci louent des espaces dans les maisons des Sud-Africains pour leurs boutiques, fournissant ainsi à ces derniers une précieuse source de revenus dans les quartiers pauvres. Certains immigrants ont mis en commun leurs ressources pour lancer des entreprises, qui aujourd'hui rivalise avec des compagnies bien établies. Cet esprit d'entrepreneuriat et d'auto-emploi fait que très peu d'étrangers sont réellement en compétition avec les Sud-Africains pour les emplois, souligne Riyan Malan, chercheur à l'Institut sud-africain des relations raciales et auteur du rapport.
Les étrangers arrivent ici, ils n'ont pas de papier, ils sont désespérés. Ils n'ont pas de choix et ne peuvent pas retourner chez eux. Pourtant, contre toute attente, ils se sont créé une situation où leur taux de chômage est la moitié du taux national.
Pour le chercheur Riyan Malan, les immigrants ont réussi ce tour de force en travaillant dur, en maintenant leurs prix bas et en fournissant un bon service à la population. Ceux d'entre eux qui n'ont pas pu s'établir à leur compte optent pour le travail dans les restaurants, le secteur du bâtiment et les fermes où ils sont payés de très bas salaires. Mais même dans ces conditions difficiles, ils réussissent à améliorer leur situation économique et celle du pays, affirme le rapport de l'Institut des relations raciales. Si les Sud-Africains prennent le temps d'apprendre les stratégies de ces étrangers, ils réussiront en dépit des difficultés économiques, estime Kerwin Lebon, chercheur à l'Institut et chef du Centre d'analyse des risques.
Les étrangers sont très industrieux dans la recherche d'opportunités. Ils n'ont pas le sens que l'État leur doit quelque chose. Lorsqu'ils font face à la concurrence, ils offrent de bas prix au lieu de recourir à la violence.
Le rapport de l'Institut sud-africain des relations raciales exhorte les décideurs sud-africains à mettre en place des systèmes permettant aux nationaux de bénéficier de l'expérience des immigrants qui semblent s'être bien adaptés à la vie en Afrique du Sud.
Merci Arzuma Compaoré. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel-Joseph Smith Lumami, à la console Richard Smith, à la présentation Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.